Voilà, alors bonjour et bienvenue à vous tous. Donc aujourd'hui, c'est la troisième et la dernière conférence de ce que j'appellerai ma trilogie de présentation du Saulnois. Au mois de décembre dernier, je vous avais présenté le Saulnois dans tous ses états, c'est-à-dire le patrimoine historique, naturel, culturel et humain. Cette première conférence a fait l'objet d'une publication, et je vois d'ailleurs que certains d'entre vous ont déjà acquis ce cahier numéro 1 du Saulnois. Les deux prochains, eh bien, ils sont en route, mais il faudra encore un petit peu de temps. Au mois de janvier, j'avais donc fait une nouvelle conférence qui s'appelait le Saulnois Grandeur Nature. Et là, je m'étais attaché à développer uniquement le patrimoine naturel du Saulnois. Et donc aujourd'hui, la dernière de la série, c'est le Saulnois à travers l'histoire. C'est un vaste programme. Alors, qu'est-ce que l'histoire? C'est ce que les hommes en font. Quand est-ce que ça commence? Ben, disons que chez nous, les premiers hommes qui ont laissé quelques traces, ça remonte quand même il y a quelques centaines de milliers d'années. Mais à cette époque-là, ils étaient très très peu nombreux, qui plus est toujours en déplacement à la recherche de leur nourriture. Et dans ces temps les plus anciens, le paléolithique, l'âge de la pierre, et d'abord l'âge de la pierre taillée, les rares traces qu'ils ont laissées, ce sont des éclats de silex ou de quartzite, des roches siliceuses très dures et résistantes qui leur permettaient notamment de couper la viande, de racler les peaux, mais finalement très peu de choses dans toute la région. Là, voyez-vous, c'est une photo que j'ai prise tout près de la ville du Bugue, en Dordogne. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que la Dordogne vient faire ici? C'est un petit clin d'œil parce que les gens de Château-Salins, lors de la dernière guerre, étaient dans leur grande majorité réfugiés dans la ville du Bugue. Et c'est là-bas qu'on a trouvé, il y a une cinquantaine d'années seulement, les restes d'un enfant de la race, entre guillemets, des Néandertals. Et puis tout près de là, vous avez la grotte des Eisy et dans le musée de la Préhistoire, il y a des reconstitutions de scènes de vie de l'époque, et naturellement, ça remonte à des temps reculés, puisque le dernier des Néandertals, ça remonte il y a 25 000 ans, ce qui fait déjà pas mal. À cette période du paléolithique, on appelait les hommes des cueilleurs, chasseurs, pêcheurs. Ils vivaient dans un monde encore très inhospitalier dans la mesure où les vallées étaient encombrées de marécages et le reste était essentiellement recouvert de forêts. Ils chassaient toutes sortes d'animaux qui pour la plupart ont disparu de nos contrées depuis longtemps. Celui qui était le plus chassé, c'était de loin le renne. Mais il pouvait aussi, comme vous le voyez là, chasser le mégacéros, un tout grand cervidé, qui n'a pas survécu, lui, aux dernières glaciations. La dernière, c'était il y a environ 10 000 ans. Nous arrivons maintenant au deuxième âge de la pierre, le néolithique, le nouvel âge, c'est la pierre polie. On a retrouvé déjà beaucoup plus de traces des hommes de cette époque, notamment des éléments tranchants de haches, comme ici, ou alors également de faucilles, de couteaux. On a trouvé des éléments en os. On a trouvé également déjà des restes de poterie, je dirais, de facture assez primitive. C'est une période où les hommes vont commencer à se sédentariser, à défricher les forêts et vont changer de statut pour passer de celui de simple cueilleur-chasseur à celui de cultivateur, éleveur. Les tribus peuplant progressivement notre pays venaient de l'Est. Elles ont remonté la vallée du Rhin, de la Moselle et de la Seille pour arriver jusque chez nous. Ce sont des hommes qui recherchaient des habitats de hauteur, notamment les collines, pour des raisons évidentes de sécurité, mais ils recherchaient également la proximité des rivières. Et nous avons chez nous trois sites très importants en ce qui concerne les trouvailles archéologiques de cette époque. Il s'agit de la côte Saint-Jean à Moyenvic, du plateau de Morville entre Moyenvic et Vic, et la colline de la Haute-Borne entre Vic et Salonne. On remarquera que ces trois sites relèvent de la même crête qui sépare la vallée de la Petite Seille de la vallée de la Grande Seille. Qui plus est, la colline qui domine le confluent des deux Seilles à Salonne s'appelle la Haute-Borne, un nom tout à fait évocateur d'une pierre levée en guise de menhir. Vous voyez ici la tombe de l'abbé Merciol dans le cimetière de Morville. L'abbé Merciol n'était pas seulement le curé de la paroisse, il était aussi un érudit local et un archéologue très averti. Quand il avait fini de lire son bréviaire, il passait son temps sur le haut de la côte à retourner les nombreuses pierres que l'on trouve dans tous les champs du plateau, et il collectionnait les magnifiques fossiles, les griffées, les ammonites, mais surtout ce qu'il recherchait, c'était des pointes de flèches, des restes de poterie, tout ce qui pouvait avoir trait à l'histoire des hommes des temps très anciens. Et par la suite, il faisait appel à ses paroissiens pour qu'ils emmènent avec leur carriole, toutes ces pierres et toutes ces trouvailles archéologiques jusqu'au musée de Metz et au musée de Nancy. Et là-bas, quand on les voyait arriver, on se disait, ah, voilà de nouveau les arracheurs de pierres de Morville, car tel était leur surnom. Et pour ceux qui connaissent l'évangile des ivrognes, eh bien, dans la version d'Hâtie-Honcourt, on parle justement des rayous de pire, c'est-à-dire des arracheurs de pierre de Morville. Je vais juste vous faire un tout petit extrait. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo initium sancti evangelii secundum prudomine gloria tibi domine. J'appris une charoute simodo. J'ai été arborer un champ, qu'n'avo ni terre ni pirate. Dans mon chemin, j'ai rencontré un homme, que m'a dit que l'avo fâcha, fit du café dans un chadron, qu'n'avo point de qui. Puis m'a demandé si je connais chaud. Les rayous de pire de Morville, les craves, les fins, j'étais salins, et les hawattes de vie. Amen. Alors je pourrais vous en chanter pendant une demi-heure, mais je vais juste vous citer les trois là, les arracheurs de pierre de Morville, je viens de vous expliquer la raison, les crèves la fin de Château Salins. Ça leur vient d'une histoire de la guerre de 30 ans dont je vous reparlerai tout à l'heure. Et les petites pioches, en patois les hawattes, c'est à Vic, évidemment, pour piocher les vignes. Sur la carte de tout à l'heure, vous voyez les trois sites principaux du niveau de l'archéologie du néolithique, mais vous avez pu voir aussi que la côte de Delme, qui domine tout le plateau du Saulnois, était un site intéressant aussi. Et on y a trouvé beaucoup de choses. Il faut dire que la présence avérée d'un atelier de taille de silex sur le flanc ouest de la côte n'y est pas étrangère. Et puis, on arrive ensuite à l'âge du bronze. Nous sommes, disons, à un peu moins de 2000 ans avant Jésus-Christ. Eh bien, le fait de savoir produire du bronze, ceci a un peu révolutionné la fabrication des armes, des outils, des bijoux. On trouve beaucoup de traces de cette époque de l'âge du bronze dans toute notre contrée, et notamment sur la côte de Delme. Et tout ceci, on peut l'observer dans la vitrine qui se trouve dans le hall de la mairie de Delme. On y trouve des choses du néolithique, du bronze, du fer et des Romains. Vous voyez ici Daniel Bérénice, ancien maire de Xaucourt, qui est un peu le spécialiste en la matière, puisqu'il a participé aux fouilles sur la côte à la fin des années 60. Là, vous pouvez observer le haut du mont, le mont de Tincry. Cette butte de Tincry, elle est couronnée d'une enceinte fortifiée, qui en est d'ailleurs la plus grande de tout le département de la Moselle en ce qui concerne cette période de la fin du néolithique et le début de l'âge du fer. Nous sommes il y a, disons, 8 siècles avant Jésus-Christ, et nous avons des peuplades celtes qui dominent la métallurgie du fer et qui se sont imposés par la force et la supériorité de leurs armes sur tout notre pays. C'est l'époque des princes celtes. Et ces princes celtes, ils se faisaient inhumer dans ce qu'on pourrait appeler des tombes avec une véritable chambre funéraire, des tombes à char, et ceci était recouvert par d'énormes tertres. On appelait ça un tumulus. Actuellement, nous avons une équipe d'archéologues qui vient tous les étés participer aux fouilles donc sur l'enceinte du Haut du Mont à Tincry. Cette équipe est dirigée par un professeur de l'université de Bristol, originaire de Sarre d'ailleurs, et ce monsieur, il cherche à établir un lien entre le camp fortifié de Tincry, ce île forte, cette colline fortifiée, et la tombe princière qui se trouve non loin de là, dans les bois de Serres. À partir de l'âge du fer, nous avons déjà du monde qui est également dans la vallée. C'est une population active et laborieuse qui est venue là, attirée par les sources salées, je dirais, pour essayer d'extraire le sel de la terre. Le sel, évidemment, élément nécessaire à la vie, surtout en ce temps-là. Et là aussi, tous les ans, nous avons des chantiers de fouilles dans la vallée de la Seille, en été. Là, c'est une photo que j'ai prise l'an dernier. Les morceaux de bois que vous voyez en bas à droite, ces madriers, eh bien, remontent probablement au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et à partir du 6e siècle, là, j'allais dire, l'exploitation du sel, qui jusque-là était restée tout à fait artisanale, commence à connaître un premier essor avec une production de plusieurs milliers de tonnes par an. Au deuxième âge du fer, nous sommes, disons, quelques siècles avant la conquête romaine. Ça n'est plus le Hallstatt, mais ce qu'on appelle la période de la Taine. Eh bien, nous avons une tribu gauloise qui s'est installée par chez nous. C'est la tribu des Médiomatriques, qui a choisi pour capitale Divodurum, c'est-à-dire Metz, au confluent de notre rivière, la Seille, avec la Moselle. La cité, ce qu'on appellera plus tard, pardon, la cité des Médiomatriques, pour le moment ça n'est qu'une tribu, elle est encadrée au nord par la tribu des Trévires, chef-lieu de Trèves, et au sud par celle des Leuques, chef-lieu Toul. Et beaucoup plus à l'ouest, évidemment, on rencontrera les Rèmes, chef-lieu Reims. Un siècle avant la conquête romaine, l'exploitation du sel, j'allais dire, change de braquet, change de niveau. Et la production annuelle passe de plusieurs milliers à plusieurs dizaines de milliers de tonnes par an. De cette époque-là, d'ailleurs, on a trouvé beaucoup de monnaie gauloise un petit peu partout dans les champs de la région. C'est essentiellement des pièces ornées de figurines animales, parfois humaines, qui peuvent être des représentations qualifiées de frustes par certains, ou au contraire d'artistiquement stylisées par les autres selon le regard que l'on y prête. Toujours est-il que cette production, que l'on peut dire industrielle du sel, eh bien, ça va bouleverser un peu la vie du pays. Alors notre pays, c'est le Pagus Salinensis, le pays du sel. Et tout ce briquetage que vous voyez ici résulte donc de l'exploitation proto-historique du sel. Le principe, pour aller vite, on prenait de l'argile pour façonner des récipients dans lesquels on mettait l'eau salée recueillie à la surface de la vallée. On faisait du feu avec du bois de façon à évaporer l'eau, récupérer le pain de sel en cassant la poterie. Et ce faisant, au cours des siècles, on a accumulé jusqu'à 3 à 4 millions de mètres cubes de poterie de cette période protohistorique. Si on mettait tous ces mètres cubes ensemble, on atteindrait presque autant que les trois pyramides d'Égypte, Khéops, Khéphren et Mykérinos, rassemblés. Ce qui fait de ce fameux briquetage de la vallée de la Seille, eh bien, le vestige de la protohistoire le plus important en Europe. Il faut savoir que le sol que foulaient les premiers saulniers, il se trouvait, on va dire, environ 5 mètres en dessous du niveau du sol actuel, dans la mesure où l'exploitation du sel réclamait énormément de bois pour faire le feu, ce qui a entraîné une déforestation. Cette déforestation a entraîné une érosion sur les hauteurs et un envasement dans les vallées, d'autant plus que ce phénomène a perduré pendant de nombreux siècles. Nous retournons sur le chantier de fouilles ici à Marsal et vous pouvez voir au niveau de la coupe, tout ce qui vous apparaît rougeâtre correspond donc à des couches de briquetage. Il faut savoir que quand on est en plein dans le village, à Marsal, ou si vous allez à Vic, à Moyenvic, à Salonne, à Burtécault, eh bien, on peut atteindre une dizaine de mètres d'empilement de briquettes. Et tout ceci donc façonné à la période proto-historique. Vous pouvez voir avec son chapeau de paille sur le côté gauche Laurent Olivier, qui dirige tous les étés les fouilles dans la vallée. Laurent Olivier, il est conservateur du département des âges du fer au musée des Antiquités nationales à Saint-Germain-en-Laye. Nous revoici donc au pays des médiomatriques. Il faut se rappeler qu'à partir de 58 avant Jésus-Christ, eh bien, les Gaulois, qui se plaignaient, j'allais dire, de la forte immigration de populations germaniques venant de l'Est, ceci déjà depuis quelque temps, ont fini par faire appel à César et à ses légions parce que ces populations germaniques devenaient de plus en plus menaçantes à l'Est. Jules César s'est fait un plaisir de venir en Gaule, de repousser les dix barbares au-delà du Rhin, mais il en a évidemment profité aussi pour conquérir les Gaules. Et c'est ainsi que la romanisation de notre région va se faire de façon relativement pacifique en ce qui concerne la tribu des Médiomatriques, des Leucs, des Trévires et des autres de cette région. Il va y avoir une organisation de l'administration romaine et notre cité des Médiomatriques, car c'est comme ça que les Romains appelleront le pays de cette tribu gauloise, la cité des Médiomatriques va faire partie d'une grande province appelée la Gaule-Belgique, dont la capitale était Reims, où était établi un représentant de l'empereur, un gouverneur impérial. Et puis, par la suite, évidemment, les Romains vont faire construire de véritables routes, les fameuses voies romaines, qui vont permettre le développement de nos régions. Il y en a une qui nous intéresse au premier chef, c'est la grande voie romaine qui venait de Reims, la capitale de la Gaule-Belgique, qui passait à Metz, la capitale de la cité des Médiomatriques, qui passait ensuite dans notre Pagus Salinensis et qui franchissait ensuite la Sarre à Pons-Saravi, le pont sur la Sarre, Sarrebourg, qui passait ensuite à Trestabernet, les trois tavernes, Saverne à la limite, avant d'aller jusque Strasbourg, Argentoratum, qui est vraiment, j'allais dire, à la frontière entre ce qu'on appelait le monde civilisé impérial et le monde outre-Rhin dit barbare. Cette voie romaine, en passant par chez nous, traversait Delme à Duodécimum, à la 12e borne en venant de Metz, Vicus Bodacius, qui signifie vit que le marécageux, Medianus Vicus, qui est donc un vicus qui a une position médiane entre Vic-sur-Seille et Marsal, Maros-Salom, Mars-Salé, et au pays des étangs, la voie romaine passait à Tarquimpol, Decempaghi, ce qui se traduit par les 10 pays, un mot qui n'a d'ailleurs pas encore livré, j'allais dire, tous ses mystères. Ces fameuses briquettes et ce fameux briquetage, eh bien, pendant longtemps, on avait pensé que c'était l'œuvre des Romains. C'est ainsi qu'au moment où Louis XIV a décidé la restructuration de la place forte de Marsal, eh bien, ce briquetage a fait l'objet d'un rapport d'un ingénieur militaire au roi. Et dans ce rapport, notre ingénieur en question, d'Arthezé de la Sauvagère, il pensait que ces briquettes étaient l'œuvre des Romains pour assécher les marais afin d'y établir les routes romaines et d'asseoir les maisons des saulniers de la vallée. Il a fallu attendre beaucoup plus tard, au XVIIIe siècle, et même au XIXe, pour se rendre compte que, en fait, ces millions de mètres cubes de briquettes, entre guillemets, eh bien, résultaient, en fait, de la fabrication et du conditionnement du sel à l'époque proto-historique. Et pour savoir vraiment le fond de l'histoire, le fin mot, si vous voulez, de la technique utilisée, il faudra donc attendre la fin des fouilles archéologiques de Laurent Olivier, qui nous livrera peut-être la clé du mystère. Pour revenir à notre cité des Médiomatriques, on voit qu'il y avait une autre voie très importante qui, elle, venait de Lyon, la capitale des Gaules, et qui passait par Toul, la capitale de la cité des Leucs, par Metz, évidemment, capitale de la cité des Médiomatriques, et qui montait jusque Trèves, capitale de la cité des Trévires, avant de poursuivre sa route. De cette voie romaine, eh bien, il reste beaucoup de souvenirs, car elle a laissé, j'allais dire, toutes sortes de jalons en franchissant notre Saulnois. C'est ainsi que, quand on regarde les cadastres, on peut voir à Lihaucourt un endroit qui est cadastré carrément la voie romaine, et il y a d'ailleurs une association locale qui porte ce nom. Dans le village voisin, à Puzieux, on parle au niveau du cadastre de la vieille route. À Delme, tout le monde connaît le restaurant à la 12e borne, car il est à la place d'un ancien relais qui se trouvait à la 12e lieue en partant de Metz en allant vers Strasbourg. Ensuite, quand on prend la route actuelle qui se confond avec l'ancienne voie romaine, à un certain moment, il y a un décrochement et une descente dans ce qu'on appelle les fonds de Fresne, Fresne en saulnois. Et La pièce qui se trouve à gauche et qui est essentiellement une prairie de pâture, elle est cadastrée la pièce des Romains, car la voie romaine, elle, passait au ras de la forêt voisine, la forêt d'Hamécourt. Ensuite, on arrive en haut de la côte de Fresnes, juste avant de descendre à Château-Salins, et là, nous avons plusieurs lieux-dits à l'emplacement des anciens virages qui s'appellent le Pavé, ce qui est un toponyme tout à fait significatif. Et non loin de là, un peu à l'écart dans la forêt d'Hamécourt, il y a toujours la fameuse source des Romains, qui a été bien sûr réaménagée au cours des derniers siècles, mais qui a gardé son nom de source des Romains. À Château-Salins, qui n'existait pas évidemment à l'époque romaine, la voie arrivait non pas par la route de Metz actuelle, mais par ce qui est appelé au niveau du cadastre la vieille route de Metz, c'est-à-dire qu'au niveau du feu rouge, il ne faut pas aller vers Metz par la route actuelle, mais par la rue de la Brigade Alsace-Lorraine, du côté des pompiers, qui se prolongeait par le chemin des pommiers. Et quand on regarde les cadastres de l'annexion, d'ailleurs, cette vieille route de Metz était appelée Alterweg, le vieux chemin. C'est donc par là qu'arrivait la voie romaine jusqu'au feu rouge. Et puis à la sortie de Château-Salins, en direction de Strasbourg, vous avez à l'embranchement de la petite route de Morville, la route du Moulin, qui correspond donc à l'ancienne voie romaine, vous avez tout un lieu-dit de Château-Salins qui est cadastré au Pavé, toujours un nom évocateur. Et puis au sortir du Saulnois, juste au niveau du Pays des Étangs, par-delà Tarquimpol, de l'autre côté de l'étang de l'Indre, vous avez un bois que tout le monde connaît qui s'appelle le Römersberg, Römersberg, la forêt du Mont des Romains. Et puis en dehors de cette grande voie de Reims à Strasbourg, il y en a d'autres. Par exemple, si vous montez sur la côte Saint-Jean à Moyenvic et que vous regardez vers l'ouest, vous voyez très bien la route d'Haracourt qui file vers la droite, alors que l'ancienne voie romaine, on le voit très bien sur cette photo, filait tout droit en direction de Hainville, une ancienne bourgade gallo-romaine, en direction de Lunéville et de Langres. Et si vous allez par-delà Morhange, vous avez l'étang de Bigewald. Quand l'étang du Bigewald est quasiment en un sec, on voit apparaître l'ancien pont romain, ce pont romain qui a été remanié évidemment, et qui est dans le prolongement de ce qui était et ce qui est toujours cadastré, le chemin des Romains qui venait de Metz en direction de Grostenquin, qui était aussi déjà une bourgade gallo-romaine. Alors, beaucoup de vicus romains ont repris l'emplacement des vieilles bourgades gauloises. À la différence près que les anciennes cabanes en bois et en terre des Gaulois vont être progressivement remplacées par des habitations en pierre et en chaux à l'époque romaine. De la même façon, les très nombreuses villas gallo-romaines, eh bien, reprennent pour certaines l'emplacement de vieux domaines ruraux des Gaulois. Sur toutes ces choses-là, on sait beaucoup de choses qui nous ont été rapportées par, j'allais dire, des spécialistes déjà depuis plusieurs siècles, et j'en citerai un, Joseph-Alexandre Schmitt, qui est né à Château-Salins et qui est devenu directeur de la bibliothèque de Nancy, où on peut consulter énormément d'archives à ce sujet, et qui a produit plusieurs ouvrages, vous voyez, dans les années 1870, qu'il avait intitulé Promenades antiques aux alentours de Château-Salins. De très nombreuses villas ont été identifiées, et puis grâce aux travaux de M. Berton, et j'allais dire de son complice M. Humbert, on a découvert dans les dernières décennies de nouvelles villas gallo-romaines, essentiellement par prospection aérienne. Et l'ouvrage de M. René Berton, Mémoire du sol, j'allais dire, fait autorité en la matière. Parmi toutes les villas gallo-romaines, je vous présente ici, c'est une photo d'archive parce qu'elle a été comblée depuis, une pièce la plus intéressante de la villa gallo-romaine de Gramsay. On parlait de la villa rustica de Gramsay, qui a été découverte donc par M. Odile, le maire de Chambray, en 1959. Et par la suite, c'est M. Paul Beugnette de Fresnes-en-Saulnois qui a participé aux fouilles et qui a réussi à rassembler une magnifique collection d'objets de cette époque gallo-romaine. Je vous montre simplement ici une planche avec quelques pièces de cette époque qui ont été ramassées sur les lieux. Mais il y a bien d'autres objets qui sont maintenant en la possession de sa fille, Maryse Ciamarella, qui les prête très souvent quand on fait des expositions dans le cadre des fêtes sur le patrimoine du Saulnois. Sur cette photo, on voit très bien ce que les archéologues nous ont expliqué, c'est le comblement d'un ancien fossé qui accompagnait, s'il voulait, un enclos d'un domaine rural gaulois. Ça, c'est une photo que j'ai faite l'an dernier, lors des fouilles préventives à Bassin, derrière Dieuze, pour le passage donc de la future ligne LGV. On voyait également de nombreux emplacements de poteaux de bois, et grâce à ça, ils ont réussi, j'allais dire, à identifier les endroits précis où se trouvaient des bâtiments agricoles de l'époque gauloise. Et non loin de là, il y a énormément de vestiges, cette fois-ci de la période romaine, car l'emplacement gaulois était, j'allais dire, modernisé en plusieurs période à l'époque romaine. Là, je vous présente simplement quelques pierres de parement d'une cave que les archéologues ont datée de la période augustéenne. L'empereur Auguste, nous sommes donc à la période de Jésus-Christ. Ça, c'est une photo prise par Daniel Manzi. Nous étions l'an dernier en train de visiter justement les substructions d'une ancienne habitation gauloise, gallo-romaine, au sommet de la côte de Delme. On a trouvé beaucoup de choses, je vous l'ai dit, sur la côte de Delme, qu'on peut voir à la mairie du chef-lieu. Mais il y a aussi eu beaucoup de découvertes aux alentours de Delme, et je pense à un personnage qui nous a quittés il y a déjà un certain temps, c'est M. François Callot, que certaines personnes, je pense à Jeannot Pêcheur de Château-Salins, qui nous a quittés assez récemment, qu'il avait très bien connu, eh bien François Callot avait ramassé énormément d'objets et sa collection, on peut en voir une partie justement à Delme. Il faut savoir que depuis le XVIIIe siècle, il y avait la présence avérée à Donjeu, près de Delme, eh bien d'un ancien établissement de bain datant des Romains, un établissement thermal. Et on a fait beaucoup de découvertes en rapport donc avec cet établissement et qui font partie donc de la collection de M. François Adot. Difficile d'occulter aussi à Vic la découverte de ce qu'on appelle le trésor de Vic au moment où le docteur Werther, Jeff, a fait construire sa maison à la rue des Romains. Eh bien, à l'occasion de ces travaux, on a mis à jour donc ce qu'on peut véritablement appeler un trésor gallo-romain, que je n'ai pas le temps de détailler ici, mais qui est visible donc au musée de Vic. De la même façon, il faut absolument aller voir au musée de Marsal une stèle gallo-romaine datée de l'an 44, qui était dédiée par les habitants de Marsal de cette époque à l'empereur Claude. Cette stèle gallo-romaine qui était au musée de Metz pendant très longtemps, eh bien, grâce à Gabriel Dist, le conservateur des musées départementaux de Vic et de Marsal, cette stèle se trouve maintenant au musée du Sel à Marsal. Et puis, bien évidemment, comment ne pas évoquer Tarquimpol ? Tarquimpol où M. Berton, notamment par ses photographies aériennes, a mis en évidence la présence avérée d'un théâtre gallo-romain de plus de 10 000 places, un des plus grands de l'est de la Gaule. Partout dans les rues du village, on trouve des pierres, j'allais dire, témoins de l'époque gallo-romaine. On en trouve dans des villages voisins également. Et si vous allez à Sarrebourg, vous pourrez voir ces pierres que je vous présente là, qui entre-temps ont été mises bien en évidence dans le nouveau musée de Sarrebourg, ce sont des pierres en calcaire extraites des carrières de Tinquerie, des pierres sculptées qui appartenaient à un magnifique monument de l'antique cité de Dekempaghi, Tarquimpol, visible au musée de Sarrebourg, un peu comme ce qu'on appelle ici la cachette du paysan vigneron qui a été trouvée sur les terres de Monsieur Houry à Tarquimpol dans les années 70, à l'époque où c'était Monsieur Marcel Lutz qui menait les fouilles et qui atteste donc la culture de la vigne déjà dans notre région en ce temps-là. La cachette du paysan vigneron donc au musée de Sarrebourg. À partir du IIIe siècle, la grande période, la Pax Romana, la période de la paix romaine, développement et prospérité, commence à connaître quelques soucis. Il y a des troubles intérieurs et la pression des peuples venus de l'Est se fait de plus en plus pressante. C'est alors que l'empereur va procéder à une réorganisation, un redécoupage administratif. Et la grande province de Gaule-Belgique va être divisée en deux provinces et notre pays à nous va relever désormais de ce qu'on appellera la province de Belgique première, dont la capitale est Trèves. Trèves qui deviendra par la suite capitale de l'Empire romain d'Occident. Trèves en est la capitale et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte plus tard que les diocèses qui vont être découpés au haut Moyen-Âge, eh bien, vont reprendre quasiment les limites exactes des cités gallo-romaines de cette fameuse Belgique première. Alors, vous avez la cité des Trévires au nord, la cité des Leucs, chef-lieu Toul, au sud, la cité des Médiomatriques avec Metz pour capitale, et la petite cité des Verdunois, chef-lieu Verdun, qui provient d'une scission à cette époque, justement, de la grande cité des Médiomatriques. Et ceci correspond donc à l'archidiocèse de Trèves, avec les quatre diocèses, Trèves, Metz, Toul, Verdun. À la fin du IIIe siècle, c'est également la période de la première christianisation de notre région. Saint Clément, premier évêque de Metz, nous sommes dans les années 280 de notre ère. Et selon la légende, Saint Clément aurait pris le plus grand des dragons qui infestaient l'amphithéâtre. Cet animal, le graouli, le symbole du paganisme, il l'a pris par le cou avec son étole et il l'a conduit jusqu'à la Seille, notre rivière, et l'a noyé dedans, donc près du confluent avec la Moselle, à Metz. Ce fameux graouli, il est représenté, vous le savez, sur le linteau de la vieille chapelle Sainte-Ursule de Putigny, dans le canton de Château-Salins. Et ce graouli, pour le moment, je l'ai pris un peu comme logo de notre association, les Amis du Saulnois et de son patrimoine. En l'an 313, l'empereur Constantin promulgue ce qu'on appelle l'édit de Milan, qui donne la liberté de culte aux chrétiens. Mais il ne suffit pas de promulguer un édit, encore faut-il qu'il soit appliqué. C'est un peu la même chose qu'aujourd'hui, sauf qu'à cette époque-là, c'était encore bien plus grave, puisqu'il n'y avait pas les moyens de communication actuels. Cet édit de Milan date de 313, ce qui n'empêchera pas qu'en 318, eh bien, il y a trois personnages qui deviendront les saints patrons de la paroisse de Moyenvic, saint Agen, saint Pion, saint Colombe, qui seront décapités à Moyenvic en raison de leur foi. Je n'ai pas le temps de détailler davantage. Je vous dirai que, à partir de ce début du IVe siècle, la paix romaine n'est quasiment plus qu'un souvenir. Il y a des problèmes à l'intérieur de l'Empire et des problèmes venant de l'extérieur. C'est ainsi que l'on sait, d'après des récits du Moyen Âge, qu'en l'an 356, il y a eu une bataille à Tarquimpole. Du moins, on la connaît sous ce nom-là, la bataille de Tarquimpole, parce qu'elle s'est passée peut-être à quelques kilomètres de là quand même. Cette bataille de Tarquimpole s'est soldée finalement à l'avantage des légions romaines, mais il s'en est fallu de peu. C'est une victoire à l'arraché. Les Alamans étaient venus de l'Est par la voie romaine, du côté de Strasbourg, et sont arrivés jusque Tarquimpole. Et les légions romaines ont failli se faire battre. Heureusement, il y a eu des légions de secours qui sont venues par la voie romaine, mais de Reims, et qui ont permis de transformer cette défaite annoncée finalement en une victoire à l'arraché. C'était en 356, mais les problèmes n'étaient pas plus réglés avec les Francs, les Alamans et tout ce qui va se passer par la suite. C'est ainsi que, à partir du 5e siècle, en l'an 406, on nous dit toujours dans l'histoire qu'il y a eu un déferlement d'abord des Vandales et toutes sortes de barbares entre les Wisigoths et les autres Ostrogoths. Alors, est-ce que c'était véritablement un déferlement ou ça s'est fait très progressivement? Ce qui est sûr, c'est que notre pays a été envahi et il va y avoir de terribles conflits dans notre région. Elle est bien loin, donc, la période de la paix romaine. C'est un peu le début de la fin de l'Empire romain d'Occident. Et notamment en 451, les troupes d'Attila, les Huns, déboulent, j'allais dire, dans notre région. Ils vont d'abord éviter Metz, qui est quand même une place forte, et ils vont s'emparer de la vallée de la Seille, où il y a beaucoup de richesses. Ensuite, ils vont se retourner sur Metz. À la tête de la ville de Metz, c'est le chevalier Livier, dont certains historiens pense que ses origines sont dans le pays de la Seille, mais cela n'est pas encore avéré. Toujours est-il que malgré la bravoure du chevalier Livier, il va être fait prisonnier. La ville de Metz va être complètement mise à sac et le chevalier Livier va être conduit prisonnier dans le camp de Marsal. Le sac de Metz s'est produit la veille de Pâques de l'an 451 et c'est seulement un mois avant Noël, le 25 novembre, que les Huns vont conduire le chevalier Livier sur la côte Saint-Jean à Moyenvic. Celui-ci refusant d'abjurer sa foi, il va être décapité et, selon la légende, il ramasse sa tête. À l'endroit où cela se produit, une source jaillit, des miracles se produiront, on construira une chapelle, la fameuse chapelle de Saint-Livier. Il y aurait évidemment beaucoup à développer sur le sujet. Mais un peu dans le même ordre d'idées, et là aussi la légende le dispute à l'histoire, c'est Saint Gibrien qui est un personnage qui est devenu saint et qui est devenu le patron de la paroisse de Lindre-Haute. Eh bien, Saint Gibrien se serait fait martyriser par des troupes barbares. On l'aurait abandonné comme mort, à moitié enseveli. Plus tard, des gens ont vu ses mains sortir de terre, d'où la présence sur cette photo des reliquaires de Saint Gibrien en forme de bras, que l'on avait posé ici sur un petit autel qui n'est autre qu'un chapiteau de style corinthien de la vieille cité de Tarquimpole. Et ce Saint Gibrien en question, on le retrouve plus tard près de Reims, et il devient un disciple de Saint Rémy. Et d'ailleurs, il est à noter que Saint Rémy de Reims, c'est le patron de la paroisse de Lindre-Basse, et Saint Gibrien est quant à lui le patron de la paroisse de Lindre-Haute. Toujours est-il qu'après toutes ces invasions, le pays est ruiné, les villas incendiées, pillées, les terres en friche, les routes sont défoncées, c'est le chaos, la misère, la désorganisation totale. C'est le début de la fin de l'Empire romain d'Occident. Et c'est le tout début de la domination franque. Alors je vous présente ici une carte qui représente toujours la cité des médiomatriques. Mais ce qui est intéressant, c'est que elle correspond aussi, je vous l'ai dit, au diocèse de Metz, lequel sera redécoupé au Moyen Âge en quatre archidiaconés. Et les limites de ces archidiaconés ne sont pas tout à fait au hasard. Tout d'abord, ce que vous pouvez remarquer, c'est que sur les quatre archidiaconés, Metz, Vic, Marsal, Sarrebourg, eh bien vous en avez deux dans notre Saulnois. Trois qui sont sur la Seille, Metz, Vic, Marsal. Vous pouvez remarquer que Sarrebourg, c'est un archidiaconé basé sur le pays de la Sarre. Vous avez l'archidiaconé de Metz qui, lui, est tout petit du point de vue de la surface. L'archidiaconé de Vic contourne Metz par l'ouest et va jusque tout près de la Meuse. Quant à l'archidiaconé de Marsal, il contourne celui de Metz par l'est et monte au nord jusque Thionville, ce qui vous montre l'importance qu'avaient nos deux petites cités de Vic et de Marsal à cette époque. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que les deux archidiaconés, Metz et Vic, étaient de langue romane. Tout est écrit en langue française. Par contre, quand on lit les pouillés de l'archidiaconé de Sarrebourg et de celui de Marsal, c'est en langue germanique. Autrement dit, la frontière linguistique, elle suivait, eh bien, la limite ouest de l'archidiaconé de Marsal. Donc vous pouvez très bien la suivre sur cette carte, la vallée de la Sarre et de la Nièvre de langue germanique. Et Marsal, à Boudange, n'ont basculé dans la langue romane qu'après la guerre de 30 ans. Alors cette frontière linguistique, beaucoup d'historiens la font remonter justement à la période des invasions, quelques siècles après Jésus-Christ, là où les tribus germaniques se sont installées en grande majorité, en masse, ils ont imposé l'usage de leur langue francique, le langage des Francs, ou alémanique, du côté de l'Est, alsacien. Et là où ils se sont, j'allais dire, dilués, entre guillemets, à l'intérieur de la Gaule, plus à l'ouest, à partir des archidiaconés de Vic et de Metz, eh bien, ce sont eux qui ont adopté la langue dominante du pays, la langue romane française. Selon certains autres historiens, cette frontière linguistique remonterait non pas quelques siècles après, mais quelques siècles avant Jésus-Christ, parce que l'arrivée des peuples germaniques, elle n'a pas attendu les grandes invasions. Ces vagues, j'allais dire, d'immigration se sont produites déjà de nombreux siècles avant Jésus-Christ, et les choses se seraient faites plus pacifiquement qu'on ne le dit aujourd'hui. Toujours est-il que cette frontière linguistique, vous le savez, elle existe toujours, c'est une véritable frontière culturelle, même si ses limites ont quelque peu bougé après la guerre de 30 ans. Il est vrai que déjà le poète Ozone célébrait la Moselle en affirmant dans un de ses vers: tu possèdes une langue rivale à la langue latine. Alors nous arrivons maintenant, eh bien j'allais dire, au début de la domination franque, après le chaos dû aux invasions et la fin de l'Empire romain d'Occident. Eh bien, seule l'Église avait encore une certaine organisation et un réseau dans tout le pays. Et Clovis, un des chefs les plus importants d'une tribu franque, avait très bien compris cela. Et c'est pour ça qu'en l'an 496, il l'a épousée, la très chrétienne Clotilde, et il s'est fait baptiser lui-même à Reims par l'évêque Saint-Rémy, patron de la paroisse, je disais tout à l'heure, de l'Indre-Basse. Et Aussitôt, le pouvoir de ce roi franc va s'appuyer déjà sur le réseau, je dirais, de l'Église. Je signalerai au passage que auparavant, une dizaine d'années auparavant, eh bien Clovis, qui revenait d'une campagne sur le Rhin, avait emmené avec lui, en passant par Toul, Saint Vaast, pour l'instruire justement dans la religion chrétienne. Dans les siècles qui vont suivre, on va assister à une christianisation progressive, notamment des noms de lieux, souvent des lieux de culte païens originellement. C'était le cas des sources, par exemple la source Sainte-Ursule à Putigny, Saint-Livier à Salival. On aura également le puits de Saint-Gibrien à l'Indre-Haute. Également les montagnes, les collines comme la côte Saint-Jean, qui était probablement un lieu de culte païen au départ. Et puis c'est le début, à partir du 5e siècle, des premières églises qui apparaissent dans notre région. La voie romaine apparaît alors comme un axe de christianisation, et les premières églises sont consacrées, eh bien, aux premiers martyrs, comme Saint-Étienne, qui est le patron de la cathédrale de Metz et qui, comme par hasard, se retrouve étant le patron de la paroisse de Tarquimpol, à mi-chemin sur la voie romaine entre Metz et Sarrebourg. Et puis vous avez les grands confesseurs, c'est-à-dire Saint Germain d'Auxerre, qui est le patron de Delme, à la 12e lieue de Metz sur la voie romaine. Vous avez Saint Rémy de Reims, je viens d'en parler, qui est le patron donc de l'Indre-Basse, à côté de Tarquimpol. Vous avez aussi Saint Martin de Tours, que l'on retrouve du côté de Delme, aussi bien à Bâcourt, Crincourt, Xaucourt, que l'on retrouve près de Château-Salins à Amelécourt, qui est également le patron, qui était le patron de la paroisse près de Dieuze de Kerpry, c'est-à-dire Val-de-Bride, et que l'on retrouve toujours non loin de la voie romaine à Fribourg, quand on quitte le pays des Étangs en direction de Sarrebourg. À la mort du roi Clovis, le royaume franc va être divisé entre ses trois enfants, et l'un d'eux, Clotaire, va réussir à réunir de nouveau tout le royaume sous son autorité. Mais à la mort de Clotaire, eh bien, le royaume franc va être de nouveau divisé entre ses trois enfants, et c'est ainsi que va naître le royaume de l'Est, qui va être confié à Sigebert, fils de Clotaire, Sigebert, qui devient donc le roi d'Austrasie. Ce royaume d'Austrasie, vous le voyez ici, c'est un vaste royaume qui allait de Cambrai et Reims à l'ouest jusqu'à Cologne et Mayence à l'est, en passant par Metz. Metz qui est la capitale du royaume d'Austrasie. Metz, dans la vallée de la Moselle, entre la vallée de la Meuse et du Rhin. Metz, capitale du royaume d'Austrasie, et c'est là que justement, Sigebert, roi d'Austrasie, va épouser Brunehaut, la fille du roi des Visigoths, et lors des noces à Metz en l'an 561, il y a parmi les invités, si je puis dire, un dénommé Venance Fortuna, d'origine vénétienne, et qui a assisté au mariage donc de Brunehaut et de Sigebert, qui plus tard écrira quelques vers sur les souvenirs à la cour d'Austrasie. Et parlant de la Moselle, dès qu'elle prend sa route à droite de la vallée, aux rives ombragées de vignes, on voit la Seille, qui tient son nom du sel, d'une allure plus chétive se transporter vers elle, et dès qu'elle a mêlé ses eaux si belles à celles de la Moselle, en augmenter la force et se mourir en elle. C'est donc un poème qui date du 6e siècle. Je l'ai un tout petit peu arrangé au niveau des rimes, évidemment, et de la langue française. Mais il a l'avantage de nous parler de notre rivière, la Seille, dont le nom provenait du sel. Ensuite arrive le temps des guerres fratricides, ou plutôt, c'est pas entre frères, mais c'est plutôt les femmes, la reine Brunehaut et la reine Frédégonde. Et puis, il y a quand même deux rois d'Austrasie qui ont laissé leur nom au moins dans l'histoire. Salor au Dagobert, qu'a vomi ses chats, c'est l'envêche. Et notre Saint-Éloi dit, ô Moreau, que votre majesté a donc m'a fagoté. C'est le farin, dit Loro, je vais remettre mes chats, c'est l'endroit. Et puis, il y en a un autre, c'est Sigisbert, qui deviendra saint, Saint Sigisbert, patron d'ailleurs par la suite de la Lorraine. Nous revenons à un instant ici à Tarquimpol. Vous voyez le clocher du XIIe siècle. Vous voyez également, quand on arrive dans le village, le rempart qui avait été fait au moment des grandes invasions, 4e, 5e siècle. Moi, je veux vous parler ici de ce que l'on a découvert. C'était en 1884, quand on a refait le pavement de cette église de Saint-Étienne de Tarquimpol. Pardon. Eh bien, on a découvert 40 sarcophages mérovingiens sous le pavement de l'église, ce qui fait d'ailleurs de l'église Saint-Étienne de Tarquimpol une des plus anciennes de tout le département de la Moselle. Des sarcophages mérovingiens. On en a trouvé également à Maison-Blanche, c'est-à-dire à Marsal. Et puis tout récemment, grâce aux fouilles de Jean-Denis Lafitte, un archéologue départemental natif de Château-Salins, Jean-Denis Lafitte, qui a d'ailleurs fait des fouilles un peu partout dans la région, cette année, ou plutôt l'an dernier, il a fouillé aux alentours du château de Vic et il a mis à jour un ancien cimetière mérovingien. Il a notamment dégagé une sépulture, un sarcophage du 7e siècle, et il y en a certainement beaucoup d'autres qui sont restés sur le site. Pour vous montrer donc qu'il y avait une présence avérée des Mérovingiens dans notre vallée, où la population devait être encore très active, puisqu'il y avait également des ateliers monétaires. On a frappé la monnaie à Vic, on a retrouvé des pièces frappées, Bodesio Vico. À Marsal, Marsalo Vico, à Moyenvic, Mediano Vico, et même on a trouvé des pièces sur Dieuze, Dozo Vico. Vous le savez, la période mérovingienne s'est terminée avec les fameux rois fainéants. Et ceux qui gouvernaient véritablement le royaume, c'étaient les maires du palais. Et parmi les maires du palais du royaume d'Austrasie, il y en a deux qui ont laissé leur nom dans l'histoire. C'est Arnoux, qui d'ailleurs par la suite deviendra évêque de Metz et saint, Saint Arnoux. Et il y en a un autre qui s'appelait Pépin, Pépin l'Ancien. Le fils d'Arnoux et la fille de Pépin vont se marier. Et dans leur descendance directe à la cinquième génération, eh bien, on tombe sur Pépin le Bref, qui a déposé le dernier roi mérovingien et qui s'est fait couronner roi des Francs à la place. Et le roi Pépin le Bref, eh bien, il va choisir Chrodegang, qui était l'évêque de Metz, il va choisir Saint Chrodegang, que vous voyez ici, j'allais dire sur ce vitrail dans l'église de Châteauvouet, il va le choisir comme chef pour toute l'église du royaume franc. Et Saint Chrodegang va fonder, au milieu du 8e siècle, l'abbaye de Gorze, une très puissante abbaye qui va rayonner sur tout le royaume et qui aura des possessions dans notre région, notamment au niveau de Vic, au niveau de Morville et du Val de Vaxy. Tout aussitôt qu'il fonde l'abbaye de Gorze, Saint Chrodegang lui octroie également une place à faire le sel à Vic. Le fils de Pépin le Bref, eh bien, c'est Charlemagne. Charlemagne, nouveau roi des Francs, qui, lui, va organiser son royaume et s'appuyer donc sur l'Église, sur les évêques, sur des comtes et aussi sur des abbés qui jouaient quasiment le même rôle au niveau des abbayes que les comtes, j'allais dire, au niveau civil. Charlemagne, vous le savez, se fera couronner empereur en l'an 800 à Noël par le pape à Rome, c'est-à-dire qu'il va être investi à la fois de pouvoir politique et religieux. Mais avant même de se faire sacrer empereur, il a fondé le prieuré de Salone. Et le plus vieux document des archives de Meurthe-et-Moselle, c'est ce parchemin que vous voyez ici, qui est daté de l'an 777, qui est signé de la main même de Charlemagne à Aix-la-Chapelle, et qui a rapport à la confirmation du prieuré de Salone qui devient un bien de l'abbé Fulrade pour l'abbaye de Saint-Denis de Paris, Saint-Denis qui deviendra d'ailleurs ensuite la nécropole des rois de France. Et Salone, le prieuré de Salone, va donc faire partie des biens de l'abbaye de Saint-Denis de Paris. L'abbé Fulrade en question, qui descendait d'une noble famille d'origine austrasienne, eh bien l'abbé Fulrade était déjà très richement possessionné dans notre région. D'après certains historiens, il aurait d'ailleurs des origines, il tiendrait ses origines du pays de la Seille, pour d'autres, ce serait du pays de la Sarre. Vous avez notamment, beaucoup de gens connaissent le collège Fulrade à Sarreguemines. Toujours est-il qu'il a laissé lui aussi un document très intéressant, qui est connu sous le nom de le testament de l'abbé Fulrade, qui nous donne beaucoup de renseignements sur les plus anciens villages de notre région. Le successeur de Charlemagne, c'est son fils Louis le Pieux, qui viendra d'ailleurs se faire couronner empereur à Metz. Après sa mort, il sera enseveli et inhumé dans l'abbaye de Saint-Arnoult, à Metz, Saint-Arnoult, son ancêtre, une abbaye qui se trouvait à l'emplacement de l'hôpital Bon Secours actuel à Metz. Mais avant sa mort, eh bien, Louis le Pieux a partagé son royaume en 843, ce qu'on appelle le traité de Verdun. J'ajouterai quand même que Metz, on peut considérer que c'est le berceau de la dynastie carolingienne. Toujours est-il donc que Louis le Pieux partage son empire, l'empire de Charlemagne. Louis le Germanique reçoit la Francie orientale, qui évoluera beaucoup plus tard vers l'Allemagne. Charles le Chauve reçoit la Francie occidentale, qui évoluera rapidement en un royaume de France. Et Lothaire reçoit toute la bande médiane, depuis Aix-la-Chapelle jusqu'à Rome, en passant par la Lorraine, si je puis dire, avec ses gros sabots. Ça, c'est en 843. À partir de ce moment-là, on peut dire que notre région devient, pour la France, une marche, c'est-à-dire une terre frontalière de l'Est. Mais pour, entre guillemets, l'Allemagne, eh bien notre région sera toujours une marche de l'Ouest. Et d'ailleurs, à l'époque de Hitler, de la dernière guerre mondiale, notre pays sera annexé sous le nom de Westmarkt, la marche de l'Ouest, le Go-Westmarkt, capitale Saarbrücken. Le problème, c'est que Lothaire meurt assez jeune et son royaume, eh bien, il va être partagé entre ses trois fils et c'est son fils Lothaire II qui récupère la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire la partie septentrionale. Mais à la mort de Lothaire II, eh bien, les héritiers germaniques et les héritiers de la branche, disons, française, vont vouloir mettre la main sur ce royaume de Lothaire. On l'appelait Lotharii Regnum, ce qui a donné vers le français le règne, en germanique Lothringen, ce qui était le même nom pour dire Lotharingie. Eh bien, cette Lotharingie, au bout du compte, elle va finir par basculer du côté germanique. À tel point que les rois de Germanie vont transformer cet ancien royaume en un simple duché de Lotharingie qui va être administré, qui va être, j'allais dire, mis directement sous tutelle des rois de Germanie. Plus tard, au milieu du Xe siècle, le roi Othon de Germanie va confier le duché de Lotharingie à son frère, l'archevêque de Cologne, Brunon, qui lui, eh bien, pour des raisons, je dirais, politiques, pour stabiliser un peu cette zone-là, du point de vue politique, il va diviser le duché de Lotharingie en deux. Et c'est ainsi que va naître, dans la partie sud, le duché de Haute-Lorraine, qui seul gardera le nom de Lorraine et qui nous concerne directement. Et puis la partie septentrionale qui deviendra le duché de Haute-Lorraine, mais qui perdra rapidement cette appellation pour avoir, j'allais dire, sa propre histoire par la suite. Je vous avais dit que Charlemagne s'était appuyé sur le pouvoir de l'Église, et c'est ainsi que nous avions beaucoup de monastères qui avaient des droits sur les salines du Saulnois. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'abbaye de Gans qui avait une place à faire le sel dans Avic à partir du milieu du 8e siècle, mais on sait que déjà au 7e siècle, l'abbaye de Vissembourg avait des places à faire le sel également à Marsal. Si on compte tous les établissements religieux, on en arriverait à plusieurs dizaines, dont certaines comme l'abbaye de Saint-Denis de Paris était lointaine, Saint-Maximin de Trèves, on retrouve l'abbaye de Senones, l'abbaye de Saint-Miel, on retrouve aussi des abbayes qui sont aujourd'hui en Sarre, je pense à Mettlar ou à Prüm. On trouve également des abbayes qui étaient beaucoup plus proches, comme celle de Vergaville, créée en l'an 966. Et puis plus tard, on trouvera notamment l'abbaye des Prémontrés de Salival. Mais là, ce sera seulement au XIIe siècle. Donc, Charlemagne s'était appuyé sur les abbayes, mais aussi sur les évêques. Et vous aviez, par exemple, les évêques, celui de Metz, qui, lui, avait des droits sur les salines essentiellement à Vic et à Marsal. L'évêque de Toul possédait les salines de Moyenvic. D'ailleurs, Moyenvic faisait partie du diocèse de Toul. C'était une enclave dans le diocèse de Metz. Et le chapitre de Sainte-Marie-Madeleine de Verdun, eh bien, contrôlait les salines de Dieuze. Donc vous voyez que Metz, Toul, Verdun. Et naturellement, à partir de ce moment-là, eh bien, disons au Xe, XIe, XIIe siècle, ce sont les ducs de Lorraine, les comtes de Bar et les autres seigneurs, disons laïcs, qui veulent aussi leur part du gâteau dans la vallée de la Seille. Et on va voir fleurir un peu partout, eh bien, des forteresses. C'est le moment des premiers châteaux forts. Là, vous voyez une photo d'archives, puisque cette motte castrale a été arasée récemment. Elle se trouve près de ce qu'on appelle la ferme du Moulin, près du grand rond-point de Moyenvic. Et très probablement là, il y avait l'implantation, disons, sauvage d'un château du duc de Lorraine ou d'un comte de Bar ou d'ailleurs, qui n'a pas dû vivre longtemps ce château parce que cette forteresse a dû être rasée par l'évêque, qui était quand même le maître des lieux à ce moment-là dans la vallée de la Seille. Il faut vous dire que dès le XIe siècle, nous avions un puissant château du duc de Lorraine à l'ouest du Saulnois, à Amance. Vous aviez un puissant château à Mousson, un château pour les comtes de Bar. Et puis vous aviez par exemple un château qui était à Bacour, les chevaliers de Bacour. On en avait un à Tincry, là aussi, seigneur de Tincry, qui ensuite vont investir le château de Viviers. Château de Viviers qui, à partir d'ailleurs du XIIIe siècle, sera une possession des comtes de Salm. Vous aviez un château à Marimont, Marimont-les-Bénestrophes, tenu par les comtes de Morsberg. Et puis, vous aviez par exemple un château à Boudange, mais c'était un château épiscopal, donc des évêques. Et on va voir par la suite fleurir bien d'autres châteaux, j'allais dire, dans toute la région. C'est également à la fin du XIIe siècle que va être bâti un des plus grands châteaux de la Lorraine, à Vic. Dès la fin du XIIe siècle, nous avons l'évêque Bertram qui fait construire ce premier château, un des plus puissants donc de la Lorraine à cette époque. Bertram, on l'appelle aussi Bertrand le Saxon, il était l'ami de l'empereur Frédéric Barberousse. Frédéric Barberousse qui est venu plusieurs fois dans la région et notamment à Toul rencontrer une dizaine d'années auparavant, c'était le roi Philippe Auguste, pour nous situer dans l'histoire. À peine le château de Vic était-il construit et que la ville s'était entourée de murailles, que l'ensemble a été rasé par le comte Thiébaut Ier de Bar. Mais bien sûr, les murailles et le château vont être reconstruits par les successeurs de Bertram, je pense notamment à Conrad de Scharfenberg et aux évêques suivants, plus tard au XIVe, Thierry Bayer de Boppart. C'est la période de la construction des premières églises dont on a encore des vestiges aujourd'hui. Tout d'abord des églises romanes, je pense à celles qui ont des tours clochers ronds. Je pense à Tarquimpol, à Rodalbe, à Lidrezin. Celles qui ont des tours romanes carrées, comme ici l'église de Bellange, que l'on attribuait souvent au niveau de la construction aux Templiers. Mais ça, ça reste à prouver. Donc là, vous voyez la tour carrée romane de l'église de Bellange. Et puis, à partir du XIIIe siècle, j'allais dire, le roman va céder progressivement la place au gothique. Je vous montre ici la jolie petite église de Le Moncourt. Quand on la voit de l'extérieur, on a l'impression, avec sa silhouette très trapue et sa tour carrée, d'une église bien romane. Quand on pénètre à l'intérieur et qu'on observe, on voit déjà beaucoup de choses, je dirais, du gothique naissant. Alors pour le style roman, évidemment, je n'ai pas parlé de la collégiale Saint-Léger de Marsal, une des plus belles du genre au niveau du département, mais il y en aurait trop à dire, c'est pour ça que je n'en dirai rien. Pour ce qui est du gothique, les exemples sont à multiplier. Je pense aux petites églises de Bacourt, de Crincourt, de Fossieux. Je pense aussi même au cœur de l'église de Tarquimpol ou de l'Indre-Haute. On pourrait en citer bien d'autres. Je pense beaucoup à l'église de Morange, à l'église de Vic. Et puis, si on allait plus loin, on pourrait penser aussi à la magnifique collégiale Saint-Nicolas de Münster. Mais là, on est déjà dans un gothique flamboyant. Et par exemple, ici, je vous montre simplement un élément de l'église de Lezay, où on peut voir se côtoyer à gauche, sur cette photo, des éléments romans très primitifs du XIIe siècle et des décors gothiques qui sont déjà même flamboyants avec l'arc en accolade et un décor trilobé à l'intérieur. Ça, c'est sur l'église de Lezay. Mais on retrouverait beaucoup de choses par ailleurs. Et je n'en dirai pas plus aujourd'hui. Revenons simplement au XIVe siècle, à la période où Château-Salins va, arriver dans l'histoire. C'est la découverte d'une source salée qui est à l'origine donc de la construction par le duc Raoul de Lorraine d'un fameux Chastel Salin, à l'emplacement donc de la place de la Saline actuelle à Château-Salins. Il était, un peu un château sauvage, construit sur les terres épiscopales, si bien que l'évêque de l'époque, Adhémar de Monteil, va faire construire un peu en aval du ruisseau Salé, en amont, pardon, du ruisseau Salé, un autre château qui était connu sous le nom de Beaurepaire, le quartier qui domine Château-Salins. Ensuite, il va y avoir une véritable guerre des châteaux qui va défrayer la chronique de l'histoire lorraine pendant plus d'une décennie. Il faudra même l'intervention du roi Philippe VI de Valois, parce que nous sommes au début de la guerre de Cent Ans. Le duc Raoul, d'ailleurs, a trouvé la mort en 1346 à la bataille de Crécy, alors qu'il guerroyait contre les Anglais aux côtés du roi de France. Mais ceci n'a pas empêché les querelles de se poursuivre entre ses héritiers et les successeurs d'Adhémar au niveau de l'évêché de Metz. L'affaire se soldera en 1381 à l'avantage du duc de Lorraine qui aura le droit d'exploiter lui seul les fontaines salantes, comme il est dit, de Château-Salins, d'Amelécourt et de Salonne. quand à l'évêque de Metz, lui, il lui est reconnu la possession des salines, des vieilles salines de Vic, de Moyenvic et de Marsal. Vous voyez ici la vieille tour du château médiéval de Château-Salins qui existait encore après la dernière guerre et qui n'a disparu que récemment. C'était la dernière tour du Chastel-Salins, le Château-Salins des ducs de Lorraine. On glisse d'un siècle, nous voici maintenant au milieu du XVe siècle, le seigneur d'Horiaucourt. Androuin d'Horiaucourt était le maître d'hôtel de l'évêque de Metz, qui s'appelait à ce moment-là Conrad Bayer de Bopart, et qui séjournait au château de Vic. Eh bien, notre Androuin d'Horiaucourt n'a pas eu de chance, puisque l'abbé de Gorze, qui était entré en conflit avec les évêques de Metz, il a fait appel à des troupes françaises qui sont venues ravager les châteaux qui relevaient de l'évêché de Metz dans notre région. Et c'est ainsi que le château d'Horiaucourt a été détruit au milieu donc du XVe siècle. Et Androuin d'Horiaucourt, plutôt que de reconstruire son vieux château ruiné par les troupes françaises à la solde de l'abbé de Gorze, eh bien, il va investir le château d'Aulnoy qu'il venait d'acquérir par mariage. Et il va le restaurer. Et c'est ainsi que cette vieille tour ronde que vous voyez à gauche sur cette photo, c'est la tour du château d'Aulnoy qui a été construite donc à l'époque d'Androuin d'Horiaucourt, milieu du XVe siècle. Famille d'Horiaucourt qui va rester maître d'Aulnoy jusqu'à la fin du XVIe siècle. Au XVe siècle, Vic, vous le savez, était la capitale du temporel de l'évêché de Metz, déjà depuis quelque temps. Elle le restera jusqu'au début du XVIIIe. Et au XVe siècle, il s'était développé à Vic une véritable vie de cour. C'est la grande période de deux grands évêques d'origine allemande, Conrad Bayer de Bopart, dont je viens de parler, et son successeur, Georges de Bade. Nous sommes à l'époque, si vous voulez, de la construction, notamment de l'hôtel de la Monnaie et de la porte actuelle du château des évêques. Tout le XVIe siècle est dominé par ces deux évêques d'origine germanique. Le siècle suivant, tout le XVe siècle, et tout le siècle suivant, le XVIe, sera dominé par des évêques d'origine lorraine, et ce n'est qu'à partir du XVIIe siècle que ce sont des évêques d'origine française qui s'imposeront à Vic. Voici une carte locale que j'ai faite donc pour vous donner une idée de la complexité des choses en ces moments de féodalité. Il y a deux grands princes, j'allais dire, qui se disputent les terres de notre région, l'évêque de Metz, le duc de Lorraine. Mais il y a encore bien d'autres seigneurs et autres seigneuries. On voit apparaître sur la gauche les positions avancées du duché de Bar. Sur la droite, on voit des terres qui relevaient des comtes de Fénétrange. Également des comtes plus loin de Deux-Ponts, Zweibrücken, Saarbrücken. Et puis on peut voir des terres qui étaient contrôlées par les comtes de Salm. Au nord, on peut voir également les terres contrôlées par ce qu'on appelait le pays messin, la République messine. Alors il y a également des enclaves, par exemple Lezay est une enclave lorraine à l'intérieur de l'évêché de Metz. Pardon. Allô? Allô? Oui?